Tout d'abord, quelle est la nature des violations des droits de l'homme commises par les différentes parties?
Les principales constatations et conclusions auxquelles on est arrivé concernent en réalité un éventail large de violations. D'abord, les frappes aériennes de la coalition, qui est la source principale des victimes, de nombre de victimes directes, civiles, j'entends, commises au Yémen. Nous l'avons déjà souligné dans les deux premiers rapports des deux années précédentes. Nous le répétons aujourd'hui. Un certain nombre d'éléments que nous avons recueillis tendent donc à accréditer la thèse que, effectivement, ces frappes ne respectent pas le droit humanitaire international. Il y a ensuite des bombardements de mortiers et de roquettes, qui sont des bombardements commis aussi bien par les forces gouvernementales que par les forces de Fouchi ou alors même les forces du Conseil de transition du Sud. Et ces bombardements considérés ont aussi provoqué un nombre considérable et important de victimes. Il y a aussi des mines terrestres qui ont été plantées par les Houthis selon des règles qui ne respectent pas le droit international humanitaire. Et bien sûr, les violations arbitraires de notre décision, les violations liées à la situation humanitaire, avec toutes les entraves mises en par les différents parties en conflit, les disparitions forcées, les violences basées sur le genre, le recrutement des jeunes enfants, dans les hostilités. Alors, toutes ces violations concernent tous les acteurs du conflit, aussi bien les pays de la coalition soutenant le gouvernement légitime, en particulier l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, que le gouvernement légitime du Yémen, que les Houthis ou les forces de transition du Sud.
Et pour revenir un peu aux raids aériens menés par la coalition, est-ce que le rapport conclut que c'est des crimes de guerre?
Nous l'avons déjà souligné qu'au cours des deux premières années d'existence, nous avons analysé un certain nombre de frappes aériennes de la coalition qui ont un impact apparemment disproportionné sur les civils. Nous avons aussi soulevé des préoccupations que nous réitérons cette fois-ci concernant le processus que la coalition suit pour la sélection des cibles et l'exécution des frappes aériennes. Et nous avons constaté qu'il y a un schéma récurrent de dommages commis aux civils. Alors, au cours de la période ouverte par le président Harare, le rapport, nous avons été enquêtés sur d'autres cas de frappe aérienne de la coalition, impliquant des manquements similaires, à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils et les biens à caractère civil. Et selon la méthodologie que nous avons choisie, le groupe d'experts a trouvé qu'il y a des motifs raisonnables de croire que les frappes aériennes examinées ont pu violer les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution, ce qui jette de sérieux doutes sur le fait que les préoccupations exprimées par le groupe de par le passé au sujet des procédures de ciblage de la coalition aient été prises en compte et que certains frappes sont susceptibles d'être considérées comme des actes relevant des crimes de guerre.
Vous avez relevé tantôt les attaques aveugles menées aussi par les rebelles Houthis, mais l'autre volet des habits de ces Houthis, c'est le recrutement des enfants soldats. Le rapport cite le cas de 34 adolescentes entre juin 2015 et juin 2020, mais quel est le rôle exact de ces jeunes filles dans le conflit?
Tous les acteurs du conflit, s'agissant du conflit aussi, utilisent ces enfants en tant que soldats, en quelque sorte, et les mettent parfois sur les fronts de combat. Beaucoup d'enfants sont morts d'ailleurs dans ces combats. Nous avons souligné un certain nombre de cas, quelques chiffres dans le rapport. D'une manière générale, ces recrutements se font en profitant de la situation de détresse dans laquelle les familles, souvent de ces enfants, sont. Souvent aussi, en contrepartie de peut-être un certain nombre de moyens de subsistance, de moyens financiers, que les Houthis, comme les autres acteurs, arrivent à convaincre les familles, et parfois même sous la pression, à mettre à disposition des forces, des acteurs du conflit, ces enfants-là.
Par ailleurs, le rapport fustige la poursuite de la livraison des armes par des acteurs internationaux qui alimenteraient la guerre. Pouvez-vous élaborer davantage?
Un certain nombre de pays continuent à fournir les armes aux acteurs du conflit. Nous avons cité le Canada, la France. France, l'Iran, le Royaume-Uni, les États-Unis, qui sont spécifiquement mentionnés dans le rapport dans le cadre d'une liste non exhaustive. Mais en particulier en ce qui concerne le transfert des armes, comme État tiers, ils ont l'obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire. Cependant, cette responsabilité de prendre des mesures augmente avec le niveau d'influence qu'un État spécifique exerce sur les parties en conflit. S'agissant de ces pays ont en réalité une influence très importante sur les acteurs de conflit. Dans certains cas, la fourniture d'armes ou d'un soutien logistique ou à une partie du conflit pourrait équivaloir à aider ou à assister sciemment la partie dans la commission d'un acte qui est illicite au niveau international, rendant ainsi l'État qui fournit les armes responsable de cet acte. Toutefois, il reste à établir si les conditions de la complicité, notamment pour les crimes de guerre, sont réunies en ce qui concerne les États qui transfèrent les armes au Yémen.
Première question, M. Genloubi. Aujourd'hui, qu'attendez-vous concrètement de la communauté internationale? Parce que vous avez déclaré dans le communiqué de presse que la communauté internationale a la responsabilité de mettre un terme à cette pandémie d'impunité et ne doit pas fermer les yeux sur les violations flagrantes qui sont commises au Yémen.
Après 6 ans de conflit, la situation ne s'améliore pas sur le terrain pour les civils et l'impunité qui prévaut. Nous sommes, en tant que groupe d'experts, fermement convaincus que de nouvelles initiatives sont nécessaires pour traiter la question de la responsabilité. Bien que les parties en conflit soient les premiers responsables des enquêtes et des poursuites à l'encontre des auteurs de violations graves, assimilables à des crimes au regard du droit international ou national, nous sommes préoccupés par l'absence de progrès dans ce domaine. Dans nos rapports précédents, par exemple, nous avions laissé présager la nécessité de nouvelles initiatives internationales. Nous avons précisé cette année la forme que pourraient prendre ces initiatives. Le groupe, par exemple, les avis de la situation au Yémen devaient être déférés par le Conseil de sécurité à la Cour pénale internationale. Ce point de vue est fondé sur la persistance des violations qui peuvent être assimilées à des crimes internationaux commis au Yémen et sur l'absence de responsabilité des auteurs de ces violations et ces crimes. La Cour pénale internationale a été créée précisément parce que l'on souhaite que les crimes les plus graves qui concernent la communauté internationale dans son ensemble ne restent pas impunis et qu'il est nécessaire qu'un organe international puisse engager des poursuites lorsque les États ne veulent pas ou ne peuvent pas agir de la sorte. Outre les cas individuels que la Cour pénale internationale pourrait poursuivre, le fait de saisir la Cour envoie un message fort à notre avis. Personne n'est au-dessus de la loi ou des lois et la communauté internationale reconnaît l'importance de violation de ces crimes commis au Yémen.